Miroir, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle dans ce royaume? Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce dessin animé, fort connu, peut-être pour les parents qui ont des jeunes enfants, ou les grands-parents, où une méchante reine, qui est aussi belle-mère d'une jeune femme, se regarde quotidiennement dans le miroir et s'attend à recevoir la même réponse à chaque fois, « Oui, c'est toi, ma reine, la plus belle. » Jusqu'au jour où le miroir ne lui dira plus que c'est elle, mais que c'est une autre. Est-ce que vous vous rappelez de ce dessin animé-là? C'est lequel? C'est pas Cendrillon, c'est Blanche-Neige Rose, voilà. C'est une princesse quand même, voilà. Mais c'est Blanche-Neige, Blanche-Neige. Alors c'est au moment où cette méchante reine n'a plus reçu du miroir ce qu'elle attendait que ses problèmes ont commencé. La jalousie, la méchanceté, l'orgueil, tout ça s'est développé. Alors je pense que le miroir, ça existe depuis toujours. Je pense que les premiers hommes, eh bien, ont commencé à se regarder dans le reflet de l'eau. Le reflet de l'eau calme, le reflet de l'eau paisible. Tu sais, quand on passe près d'un lac comme ça, ou d'une mare, et que l'eau ne bouge pas, qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de pluie, eh bien, on peut voir son reflet hein, dans l'eau, plus ou moins correctement. Et après, les hommes ont évolué. Dieu permet à l'homme d'être intelligent et de développer l'intelligence. Et ont commencé à inventer des miroirs en bronze, en acier, en fer, poli, dans lequel l'homme et la femme pouvaient avoir un reflet de leur personne, et plus ou moins correct. Et de nos jours, actuellement, eh bien, nous connaissons tous les miroirs, nous en avons tous au moins un chez nous, voire même plus, et ils sont de toutes les tailles, de toutes les formes, décorés, ils sont design, et là, dans ce miroir-là, on peut dire que le reflet est très, très bien rendu, on a un très bon rendu de notre personnalité. Le miroir, c'est important. Est-ce que quelqu'un en a un ici dans l'Assemblée? Est-ce que quelqu'un a un miroir, une dame dans son sac, un monsieur a un miroir? Alors, vous ne me le direz même pas si c'est vrai, de toute façon. Donc, je suppose que certains ici possèdent un miroir dans leur sac ou sont venus avec. Le miroir, c'est important parce que ça nous apprend à nous connaître. Le miroir, ça nous apprend à voir ce qui va chez nous et aussi à voir ce qui ne va pas. Quand on se regarde dans le miroir, eh bien, on constate... Voilà, si j'ai une mèche rebelle, si pour une dame, s'il manque un peu de maquillage au niveau de l'œil, ou voilà, si on a un bouton sur le visage, bien, le miroir nous montre ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Et pour introduire ce message, je voudrais faire une simple lecture pour commencer. Alors, on en fera plusieurs durant tout le message, et je vous inviterai à les suivre avec moi à l'arrière. Nous ferons une première lecture dans Jérémie. Alors, Jérémie, au chapitre 17... Jérémie, chapitre 17, et nous lirons le verset 9 et 10. Jérémie, chapitre 17, verset 9 et 10. Je vais vous le lire. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Au verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Voilà pour la première lecture. Je pense que la première question à laquelle on pourrait s'arrêter ce matin, c'est important de se poser des questions, c'est est-ce que je me connais moi-même? Est-ce que je suis certain que je me connais bien? Est-ce que je connais toutes les facettes de ma personnalité? La parole de Dieu nous dit que le cœur est tortueux, méchant, qui peut le connaître? Est-ce que soi-même on se connaît personnellement? Question importante. L'être humain est quelque chose de complexe. Le cerveau humain est complexe, le cœur de l'homme est complexe. On pourrait dire qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs mois. Alors il y a quatre mois. Il y a le moi public. Le moi public, c'est quoi? Bien, c'est le moi que je montre le plus souvent. C'est le moi que vous voyez... lorsque je suis en dehors de la maison, c'est le moi que mes collègues peuvent voir lorsque je travaille, c'est le moi que je montre au restaurant quand je suis avec des amis, ça c'est le moi public. Mais est-ce qu'il me reflète vraiment bien ce moi public? Ou est-ce que c'est parfois une image erronée de moi? Il y a aussi le moi privé. Alors comme son nom l'indique, le moi privé c'est un moi qui est plutôt réservé à ma famille intime, à des amis très intimes, des frères et sœurs en Christ aussi peut-être assez intimes pour que je puisse leur dévoiler ce moi privé. Ce moi privé est privé, eh bien, parce qu'il contient aussi différentes choses de ma personnalité, que je ne souhaite peut-être pas montrer à tous. Il contient mon passé, contient mon vécu, contient certainement aussi des secrets que je ne veux pas dévoiler aux autres. Et aussi le moi aveugle. Alors le moi aveugle, il est délicat parce que c'est le moi que moi personnellement je ne connais pas de moi, mais que les autres, eux, voient de moi. Donc moi je ne le connais pas, mais les autres, eux, le connaissent. Un exemple tout bête, eh bien voilà, je dors la nuit, hein. Et est-ce que je sais ce qui se passe quand je dors la nuit? Je ne sais pas. Est-ce que je ronfle? Moi, je vous dirais que non, je ne ronfle pas, c'est sûr. Mais Peggy dira, bah oui, tu ronfles, hein, mon vieux. Alors, voilà, moi, je ne connais pas, mais Peggy connaît, elle connaît, le moi aveugle. Et alors, ça, c'est pour une banalité, c'est délicat, mais est-ce que je peux dire aux autres toujours la vérité sur leur moi aveugle? Faire attention, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir, parce que on peut, dans certains cas, blesser, faire du mal, écraser, vraiment anéantir certaines personnes quand on leur dit trop franchement et trop directement la vérité sur leur moi aveugle. Toujours chercher la sagesse, parler avec amour, avec retenue, hein, chercher la sagesse de Dieu pour parler aux autres dans nos conversations. Soyons attentifs à cela. Il y a encore un dernier moi. Ça, c'est le moi inconnu. Alors, le moi inconnu, c'est le moi que je ne connais pas de moi et que les autres ne connaissent pas non plus de moi. C'est un moi que personne ne connaît. Ah, si Dieu le connaît. Le moi inconnu, bien Dieu le connaît, mais moi je ne le connais pas. Et les autres ne le connaissent pas non plus. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous regarder dans différents miroirs pour apprendre à nous connaître. Il y aura différents miroirs par lesquels nous allons regarder. C'est pourquoi je vous invite ce matin à vous regarder dans un miroir avec moi. Alors pas pour se critiquer, pas pour se juger, pas pour se comparer, mais pour apprendre à nous connaître à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors, nous allons nous regarder ce matin dans le miroir, premièrement, nous appellerons le miroir classique, le miroir de la salle de bain, le miroir de la chambre, le miroir du salon, enfin, miroir de la salle de bain. Nous regarderons aussi dans le miroir de l'homme. L'homme est un miroir pour l'homme. Nous regarderons aussi dans le miroir des circonstances. Ce sera un double miroir. D'un côté, nous aurons les heureuses circonstances, les bénédictions, et de l'autre côté de ce miroir, quand on le retourne, on aura, eh bien, les circonstances moins heureuses, les circonstances, les tuiles, les épreuves aussi que Dieu met sur notre route pour nous apprendre, pour nous former. Donc ce double miroir. Et nous terminerons par le dernier miroir, le seul miroir parfait, le seul miroir qui nous dit toute la vérité sur nous, à la fois intérieur et extérieur, le miroir de la parole de Dieu. C'est le seul miroir parfait. Nous terminerons avec celui-là. Alors commençons le point numéro 1, le miroir de la salle de bain. Alors, le miroir de la salle de bain, il est fidèle aux apparences. Quand vous vous présentez devant le miroir, il est fidèle aux apparences. Il vous montre le reflet de votre personne physique. Il est bien. Les miroirs de maintenant, actuellement, sont bien. Ils renvoient une bonne image. Parce que nous possédons un corps. On a un corps que l'on peut toucher, que l'on peut palper, un corps avec lequel je peux travailler, je peux faire des choses. Non, nous avons un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, eh bien, il y a mon âme, mon esprit, caché à l'intérieur de ce corps. Et eux, le miroir, ils ne me le reflètent pas. Mais je possède un corps palpable, donc j'ai besoin de miroir. Miroir de la salle de bain, il est fidèle aux apparences. Enfin, chez moi, oui. J'espère que chez vous aussi. Sauf si vous possédez des miroirs, un peu comme à la fête foraine, ces miroirs un peu déformants. Alors, une fois dedans, vous êtes très grand, une fois, vous êtes très petit, une fois, vous allez être très gros, et une fois, vous serez très mince. Alors, on est plus souvent moche dans ces miroirs-là que beau. Et en tout cas, la plupart des miroirs que nous avons chez nous sont fidèles aux apparences. Miroir de la salle de bain, c'est un instrument utile. Hein. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de miroir dans sa vie, c'est délicat. On a besoin de miroir dans la vie. Et si je demandais au hasard à une personne, à Benoît par exemple, si Benoît pourrait me dire chez toi combien de miroirs tu possèdes, ouais, Benoît va réfléchir, le couloir d'entrée, la salle de bain, peut-être la chambre, peut-être le salon, la salle à manger, dans la voiture, hein, peut-être encore ailleurs. Ah, on serait étonné de la réponse. Hein. Combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus la maison est grande, plus il y a le miroir aussi. Hein? Ah oui, on serait étonné de la réponse. Nous possédons beaucoup de miroirs. C'est normal, hein, on a besoin de miroirs au quotidien pour nous préparer, pour voir ce qui va et pour voir ce qui ne va pas. Les hommes, par exemple, avec le rasoir et la mousse à raser. Est-ce qu'on pourrait se raser comme ça sans miroir? Alors, je ne parle pas du rasoir électrique avec lequel on peut tricher. Je parle du rasoir avec la mousse et la lame. Hein. Alors, parce que si un homme me dit oui dimanche prochain, les anciens me le permettent, il devra se raser devant tout le monde ici sans miroir. On verra le résultat. Mais aussi les dames. Est-ce que les dames, vous pourriez vous maquiller sans miroir? Les jeunes femmes, les dames, hein, c'est délicat. C'est délicat. Alors, ça peut être possible, le résultat, on ne le garantit pas à ce moment-là. Hein. Même chose, si vous me dites que oui, vous viendrez vous maquiller les dames ici devant dimanche prochain sans miroir. On verra le résultat. Donc le miroir, c'est important, parce que devant lui, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'arrange, on se rectifie, on s'améliore, on tente de se faire beau, de s'améliorer, de s'arranger. Alors, vous êtes comme moi, hein, le matin, quand vous vous levez, voilà, vous arrivez de votre chambre, vous passez devant le miroir, vous sursautez, vous dites « c'est qui ?» Ben non, mais c'est moi, vous savez pas. Alors vous regardez de plus près, ben oui, c'est bien moi, mais alors après vous vous préparez, vous vous rasez, les dames, on va se laver, on se brosse les dents, on se coiffe, ben on se prépare. Au départ, ça peut faire peur, on se reconnaît pas. Ben on se prépare, on s'arrange, on s'améliore. Ça nous permet de voir ce qui ne va pas chez nous et d'y remédier. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se regarder dans le miroir tout le temps pour jouer sur le culte du corps, pour adorer son apparence. Ne pas tout miser sur son apparence physique, c'est pas ça que je suis en train de dire. Attention, c'est de la coquetterie, ça, à ce moment-là, c'est pas pareil. Attention au culte du corps, de ne pas tomber dans cette religion du corps, hein, ça c'est attention. Mais les miroirs sont utiles pour l'être humain. Mais le miroir de la salle de bain, il est utile, mais il est aussi très limité. Parce qu'il peut nous montrer que l'apparence physique, dans le miroir de la salle de bain, vous pouvez pas voir comment est votre cœur, ni comment se porte votre âme, ça vous savez pas le voir, parce qu'il ne vous montre pas ça, ce miroir-là. Il est utile, mais il est limité. Alors que la parole de Dieu, j'ai pris la référence, et j'espère qu'elle va pouvoir s'afficher, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Pour ceux qui notent, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 23. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est important, on n'est pas qu'un être physique. On est aussi un être spirituel. Le corps est important. Il faut en prendre soin. Il faut le nourrir, il faut l'hydrater, il faut le vêtir, il faut aller chez le médecin quand on est malade, il faut parfois se faire opérer quand il y a un souci. Hein, il faut prier, bien sûr, quand on est malade, mais Dieu a aussi fait les médecins qui ont fait les médicaments, Dieu a permis l'intelligence. Donc il faut prendre soin de son corps. C'est important. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, Dieu a fait des lois pour que notre corps soit en bonne santé, des choses à faire et à peut-être à ne pas faire, pour que notre corps physique reste en bonne santé. Mais attention, si je prends seulement soin de mon corps physique et que je délaisse totalement mon être spirituel, il y aura un déséquilibre qui va s'installer. Ça n'ira pas. Il va y avoir un déséquilibre important. Le miroir de la salle de bain est limité parce qu'il ne révèle pas, il ne me révèle pas, il ne me montre pas ce qui ne va pas dans mon être spirituel, dans mon être intérieur. Et pourtant, je pense que j'ai besoin autant, voire même plus, de me regarder l'être intérieur que la personne extérieure que je suis. Au moins autant, voire même plus. Il faut se regarder à l'intérieur pour savoir quel est notre état, quelle est notre relation avec Dieu, comment est mon âme, comment je suis actuellement, comment je suis. Alors des questions embêtantes, il y en a toujours. Enfin, je vais vous les poser. Combien de temps passons-nous devant le miroir de la salle de bain? Et combien de temps passons-nous devant la salle de bain divine, dans la salle de bain divine? Ah oui. Combien d'argent est-ce que je suis prêt à dépenser pour entretenir mon corps physique? Et combien d'argent est-ce que je suis prêt à dépenser pour entretenir mon être spirituel tous les mois? C'est des questions auxquelles il ne faut pas de réponse ici, mais chacun intérieurement, eh bien, on peut se questionner. Est-ce que je passe plus de temps, ou moins de temps, dans la salle de bain, devant le miroir de la salle de bain, par rapport à la salle de bain divine? Par rapport aussi à mes dépenses pour entretenir mon corps, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Ça, je vous laisse vous interroger vous-même. L'apôtre Paul déclare dans sa parole que notre corps est semblable à une tente, une demeure qui est appelée à s'abîmer, une demeure qui n'est pas éternelle, une demeure qui s'abîme, qui flétrit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4, vous trouverez cette allusion à la tente de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4, pour ceux qui prennent des notes. D'une manière un peu crue, hein, parce que l'apôtre Paul, il parlait parfois un peu crûment, comme ça, sans détour, que notre corps, eh bien, il s'abîme, notre corps, il vieillit. Hein. Nous allons vieillir. Je ne sais pas si ce matin, je vous apprends quelque chose en vous disant ça, mais nous vieillissons, nous allons vieillir. Alors, pour les personnes plus âgées, ben oui, c'est un constat plus facile à faire. Pour, comme moi, les mi-vieux ou les mi-jeunes, comme ça, ben, on commence à se dire, Et pour les jeunes qui sont ici, les jeunes beaux gosses là devant et tout ça, ben eux, c'est moins facile de l'avouer parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas l'impression de vieillir encore. Mais si, on va tous vieillir, notre corps s'abîme. On vieillit, on est appelé à flétrir. Alors, il faut que je prenne soin de mon corps, c'est vrai. Mais mon corps, il vieillit. Mais il faut trouver un équilibre dans la vie entre prendre soin de mon corps et prendre soin aussi, et surtout, j'ai envie de dire, de mon être spirituel, afin de vivre heureux avec le Seigneur et de vivre heureux dans la vie. Or, le deuxième miroir dans lequel j'aimerais qu'on se regarde ce matin, c'est le miroir de l'homme. L'homme est le miroir de l'homme. Et pour introduire ce deuxième miroir, nous allons faire une lecture ensemble. Livre des Proverbes, un très beau livre. Je vais le chercher. Livre des Proverbes, nous lirons au chapitre 27. Un très beau verset. Proverbes chapitre 27, et nous prendrons le verset 19. Proverbes 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Quand je vois quelqu'un, quand je te regarde, je me vois. On est fait de la même nature, on est fait de la même manière. Même si on est certains plus grands, plus petits, certains ont plus de cheveux, d'autres en ont moins, certains ont des lunettes, d'autres n'en ont pas, on est fait de la même nature. Et quand je vois l'être humain, je me vois, comme un miroir, je me vois dans cette personne. Vous connaissez cette expression qui déclare que les chiens font pas des chats ou les chats font des chats. Les chiens font pas des chats, les chats font pas des chiens. Hein? Comme l'enfant est à l'image et le reflet de ses parents, eh bien l'homme est le reflet de l'homme. Il y a des papas qui, quand leur fils fait quelque chose de bien, qui sont fiers, eh bien ils disent « Regardez, c'est mon fils. C'est mon fils qui disent comme ça. » Et quand ce même fils fait quelque chose de moins bien, qui sont moins fiers, eh bien, ils disent vite, t'as vu chéri, ce qu'il a fait ton fils, qu'il a fait ton fils. Ben, on est comme ça un peu, hein, c'est vrai, on est comme ça un petit peu tous. Hein. Mais à ce moment-là, au moment où le fils fait quelque chose de moins agréable, de moins bien, ben, ça reste ton fils quand même, ça reste mon fils quand même. Hein, c'est vrai. Les manquements, les faiblesses de mon fils, c'est aussi le reflet des miennes parce qu'il est de moi, il est l'image, il est mon image. Hein. Quand je vois quelqu'un, je ne peux pas le condamner. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il est fait de la même nature que moi, parce que c'est la même chose. Certains hommes ne sont pas régénérés par Dieu, par la parole de Dieu. Alors ça, il y a une différence avec le chrétien. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Et j'ai réfléchi à ce que Benoît a dit dans son message il y a 15 jours, sur le voisin qui s'amuse à perforer, percuter dans le mur pendant qu'on a culte ici le matin. Est-ce qu'on peut le condamner ? Benoît a dit, il n'est pas notre ennemi. Et c'est vrai, tu avais raison Benoît. Mais je ne peux pas trop le juger parce qu'il a la même nature que moi. Il n'est pas régénéré par la parole de Dieu. Il a cette nature humaine, cette nature déchue. Hein? Je ne peux pas le condamner. Parce que comment je serais si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie? Peut-être je serais comme lui. Peut-être je serais aussi pire que lui. Attention à comment nous regardons les autres, à comment nous les jugeons facilement. Nous avons la même nature. La parole de Dieu, dans Romains chapitre 3, verset 23, nous le déclare. Tous sont pécheurs, tous sont péchés. Il n'y a pas de juste, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste, il n'y en a pas un seul. Quand je vois un homme ou une femme, ben je me vois, c'est mon reflet face à moi. Alors quand je vois un homme transformé, régénéré par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, ben ça m'encourage parce que je peux voir par là ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu fait dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est régénéré, qui est habité par le Saint-Esprit. Et quand je vois un homme ou une femme qui est déchu, je vais avoir une réaction de crainte parce que, ô combien c'est vrai, sans la présence de Dieu en moi, s'il n'était pas là, s'il n'habitait pas en moi, eh bien comment je serais ? Pour avoir une réaction de crainte, plutôt qu'une réaction de moquerie ou de critique. Attention, ça peut m'arriver à moi aussi. Si je ne prends pas garde à mon attitude, je ne fais pas attention à mon comportement, si je m'éloigne de Dieu, si je ne lis pas sa Bible, si je ne le prie pas, si je n'ai pas une communion avec lui, eh bien, je m'éloigne de Dieu et ça peut m'arriver à moi aussi de chuter, de tomber. Je ne peux que lui pardonner à cette personne et espérer prier pour elle, pour qu'elle puisse trouver, eh bien aussi, d'être régénérée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Vieille expression qui pourtant a encore tout son, tout son mérite d'être cité aujourd'hui. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. C'est une vieille expression, hein, ça. Mais elle est efficace encore aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que nos relations, nos amitiés, les personnes que nous côtoyons, eh bien, déterminent qui nous sommes, ce que nous sommes. C'est le miroir de mon âme. Les personnes à qui je passe beaucoup de temps, ceux avec qui je passe mon temps, eh bien, déterminent comment je vais penser, déterminent le miroir de mon âme. C'est-à-dire que pour les jeunes aussi, le choix de tes copains, le choix de tes copines, de ton petit ami, ta petite amie, pour les plus grands aussi, de nos amis, de nos relations que nous avons au quotidien, eh bien, ça détermine ce que nous sommes et comment nous allons penser, comment nous allons agir. Attention à qui nous fréquentons, avec qui nous passons du temps. Attention, il faut y réfléchir parfois et remettre un petit peu d'ordre dans sa vie peut-être. J'apprends à me connaître quand je suis au contact des autres. C'est pour ça que je ne peux pas vivre comme Robinson Crusoe, tout seul sur une île déserte. Ça peut marcher intense, hein, mais ça ne peut pas fonctionner tout le temps parce que ça fait du bien parfois. Mais sans les autres, je ne me vois pas, je ne m'améliore pas, je n'ai pas de référence. Je m'améliore, j'apprends à me connaître au travers de l'autre, au travers de l'homme, au travers de la femme. Je ne peux pas en vouloir aux autres, à mes frères, à mes sœurs, aux personnes que je rencontre, parce qu'elles ont la même nature que moi. Et si demain, eh bien, le Saint-Esprit me quitte, si le Seigneur reprenait son Saint-Esprit qui est en moi, comment je serais? Comment je serais? Est-ce que je serais pire? Est-ce que je serais mieux? Ça ne sait pas le savoir. Attention. Le troisième miroir dans lequel on va se regarder aujourd'hui, c'est le double miroir. On dit, à côté du miroir, on va avoir les heureuses circonstances, les bénédictions, les choses qui sont agréables à prendre, agréables à voir. Et puis, on va retourner ce miroir et là, on va voir les tuiles, les épreuves que Dieu place sur notre route, les choses moins agréables à réfléchir, à voir. Heureuses circonstances, fâcheuses circonstances. On appelle aussi les épreuves du côté des mauvaises circonstances, les tuiles qui nous arrivent. Dieu se présente dans sa parole comme un fondeur, comme le fondeur. Ça, on peut le lire dans Malachie 3, verset 2. Malachie 3, verset 2. On va le lire ensemble, c'est important cette référence. Malachie 3, verset 2. Dernier livre de l'Ancien Testament, au verset 2. On lira le verset 3 avec également. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. L'Éternel est présenté comme le fondeur, celui qui fond. Celui qui travaille le minerai d'argent, le minerai d'or. Alors, c'est quoi le métier de fondeur? Eh bien, c'est quelqu'un qui prend du minerai. Il prend du minerai en bloc et il fait chauffer. Et au fur et à mesure que la température, eh bien, elle monte, il y a des impuretés, il y a des choses qui ne sont pas belles, il y a des choses qui sont inutiles, eh bien, qui sont brûlées par le feu et qui s'évaporent, qui s'en vont, pour laisser place, eh bien, à quelque chose de pur. On prend l'exemple de l'argent. Il fait chauffer l'argent, le fondeur, et alors, plus la température monte, plus l'argent devient pur. Mais attention, il faut s'arrêter au bon moment, parce que si on va trop haut, on brûle aussi l'argent et il ne reste plus rien. C'est ça le métier de fondeur. La chaleur du feu fait ressortir ce qui doit être retiré dans l'argent, ce qui doit être débarrassé. Et Dieu se sert des épreuves dans nos vies aussi à nous pour faire chauffer le thermostat de notre foi, pour faire chauffer la température de notre foi, et ainsi retirer chez nous ce qui doit être débarrassé, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas joli, ce qui doit disparaître. Alors un exemple tout simple, c'est facile de dire quand il n'y a pas d'épreuve des choses. Je peux dire de moi que je suis quelqu'un de calme au volant. Quand je viens à l'église le dimanche matin, il n'y a pas d'embouteillage, j'ai le temps, je ne travaille pas, les enfants ne doivent pas se préparer pour aller à l'école, donc je conduis tranquillement. Ou céder le passage si la personne devant moi ne démarre pas assez vite, c'est pas grave, hein, je démarrerai plus tard. Au feu, si la personne devant moi ne démarre pas tout de suite, bon, c'est pas grave, hein, je passerai au deuxième feu vert, c'est pas un drame, je ne suis pas en retard, je suis calme au volant. Et quand c'est lundi matin, Vous êtes en retard au travail. Les adolescents que vous devez conduire à l'école ne sont pas prêts. Ils vous accusent encore d'être en retard, alors que c'est eux qui ne sont pas prêts. Ah, c'est pas la même limonade, hein, là. Là, je peux vous garantir que le coco qui ne démarre pas assez rapidement au CD le passage, vous klaxonnez. Et si au feu, après, il y en a un qui ne démarre pas assez au feu vert, vous êtes prêt à descendre de la voiture, vous expliquez avec lui déjà. Ah, c'est comme ça. Parce que quand il y a la chaleur, quand il y a l'épreuve, eh bien, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Ça nous montre de quoi nous sommes faits. Ça nous montre. Dieu sait faire chauffer, lui, notre foi, jusqu'à une certaine température, pour nous aider à nous débarrasser de ce qui ne va pas, de ce qui doit être retiré. Les impuretés, les scories, ce qui n'est pas joli, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas utile. Eh bien, Dieu, lui, sait les retirer. Mais Dieu est trois fois saint, il sait en plus quand s'arrêter. Il nous connaît tous par cœur, parce que le moins inconnu, Dieu, lui, il le connaît, hein, de nous. Alors, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 13, 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous est dit que Dieu ne fait jamais chauffer la température de l'épreuve au-delà de nos limites. Il sait quand s'arrêter, comme le fondeur. Il sait quand arrêter la température pour ne pas nous brûler, pour ne pas que l'on disparaisse totalement, pour ne pas abîmer ce qui est bon chez nous. Et comme l'Éternel est bon, il prépare déjà après, avec l'épreuve, il prépare déjà la solution pour s'en sortir. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et dans l'épreuve, eh bien, c'est important l'épreuve. Parce que Dieu nous met à l'école. Et là, l'école, c'est important. Hein. On le dit souvent aux adolescents, l'école, c'est important, ton avenir, les diplômes, c'est important d'aller à l'école. On le répète, hein. On le répète. Moi aussi, dans l'enseignement, j'ai des élèves qui ne veulent pas aller à l'école, ils sont obligés jusqu'à 18 ans, ils veulent un CPS, c'est tout, après, ils ne veulent rien d'autre. Alors, ils vont à l'école, mais ils s'en foutent de l'école. C'est important d'aller à l'école. Et dans l'épreuve, Dieu nous met à l'école. À l'école de quoi? À l'école de la confiance, à l'école de la patience, à l'école de la douceur, à l'école de l'écoute des autres. Voilà, Dieu nous place à l'école dans l'épreuve. Il nous apprend des choses, il nous forme. Il nous forme. Et pour illustrer tout ça, j'ai choisi un passage de la Bible qui concerne eh bien, le peuple de Dieu, le peuple hébreu. Une fois sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte et on se rappelle qu'ils vont passer 40 années dans le désert. Ils vont tourner comme en rond dans le désert. Alors que le chemin n'était pas si long que ça, mais ils vont y passer 40 années. Hein ? On va lire ensemble ce passage. On va lire ensemble. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Nous lirons les versets 2 et 3. L'Éternel qui va parler à son peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ils ont été placés à l'école, le peuple hébreu, pendant ces 40 années. Ça aurait été plus facile, peut-être que moi j'aurais pensé comme ça. J'avais été à la place des autres, quand Dieu a dit que la génération là, qui avait murmuré contre Moïse et contre Dieu n'entrerait pas en terre promise. Eh bien les autres, moi j'aurais peut-être dit, ben, écoute Seigneur, pourquoi tu ne les fais pas mourir maintenant, qu'on puisse entrer tout de suite quoi. Après tout, pourquoi on doit tourner 40 années dans le désert? C'est long 40 ans, hein. 40 ans c'est énorme dans une vie. Vous avez 20 ans, vous tournez pendant 40 ans, vous en avez 60, vous en avez 30, vous tournez 40 ans, vous en avez 70. C'est énorme 40 ans, c'est une longue période. Hein. Eh bien ce passage nous donne les réponses. Il les a humiliés. Il les a fait réfléchir. Il leur a fait prendre conscience que l'homme ne doit pas vivre seulement sur leur propre force, ni sur ce qu'eux bâtissent, mais sur tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ils ont été mis à l'épreuve. Ça a été dur pour eux. Une épreuve conséquente, 40 années. Et nous, comment est-ce qu'on réagit quand on devient à l'épreuve? Comment on est quand l'épreuve arrive? Parce que l'épreuve, elle arrive. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'appeler, elle vient toute seule. Hein. Est-ce que je serai dans le doute? Est-ce que j'aurai de l'amertume? Est-ce que je serai carrément dans la révolte, la colère envers Dieu? Comment est-ce que je vais réagir quand l'épreuve arrive? C'est intéressant l'épreuve parce que on passe de la théorie de la foi à la pratique de la foi. Et la foi en théorie, c'est bien, mais avoir la foi quand les choses pratiques sont là, quand l'épreuve est là, c'est important aussi. On passe de la théorie à la pratique de la foi. Alors ça, c'était pour les fâcheuses circonstances, les épreuves. Mais de l'autre côté du miroir, on a dit qu'il y avait les heureuses circonstances. Alors on pourrait se dire que les heureuses circonstances, eh bien, il n'y en a pas besoin d'en parler beaucoup, mais si. Lorsque tout va bien, lorsqu'on est bien, le Seigneur nous bénit dans la famille, dans le travail, dans l'assemblée, mon ministère, ça fonctionne bien, plus besoin de prier, hein. Plus besoin de passer du temps avec le Seigneur, parce que même sans ça, ça marche de toute façon. Donc on peut se relâcher. On se relâche. Et quand il y a du relâchement, il y en a un qui ne se relâche pas, c'est Satan, c'est le diable. Lui, il rôde, il tourne. Et dès qu'il voit qu'il y en a un qui a du relâchement, qui laisse place, eh bien, il attaque. Et parfois, il fait mal. Alors, on tombe, on chute à ce moment-là. Donc, attention, lorsque ne pas devenir orgueilleux, quand tout va bien, quand le Seigneur nous bénit abondamment, c'était le sujet de ce matin, eh bien, il faut faire attention de ne pas se relâcher, mais de rester en communion avec le Seigneur, de garder cette intimité avec lui pour ne pas s'éloigner. C'est important. Attention au relâchement. Parce qu'il nous amène au quatrième miroir. Il dit tantôt, le miroir de la parole de Dieu. Le seul miroir parfait de tous. Il n'y en a qu'un qui est parfait. C'est le seul miroir qui peut nous montrer comment on est exactement corps, âme et esprit. C'est le seul qui fait ça. Il n'y en a pas d'autre qui fait ça. Bon, on peut chercher ailleurs, hein, dans les choses du monde. Hein, on peut éventuellement essayer de trouver des pseudo-religions ou d'autres grandes créations de l'homme sur toutes sortes de choses. Il y en a beaucoup de choses comme ça, hein, où on peut chercher, mais on ne vous trouverait pas. Hein. Le seul miroir qui vous montre qui vous êtes vraiment corps, âme, esprit, c'est le miroir de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des versets qui nous montrent comment on doit se tenir en public, comment on doit se tenir dans l'assemblée, comment on doit se tenir dans sa famille, comment on doit se tenir quand on est dans le monde, devant les autres, devant ceux qui ne croient pas, pour être un témoignage. Il y a aussi des versets qui nous montrent comment on doit prier, comment on doit agir pour que sa vie de foi soit productive, pour parler aux autres. La parole de Dieu, elle est complète. Elle est complète. C'est le seul miroir complet. Et elle parle de manière franche, sans détour, de tous les sujets, même pour les jeunes. Sujet délicat qu'on n'ose pas aborder parfois avec ses parents et tout ça, eh bien, la Bible, elle en parle. Elle en parle sans détour. Alors, si on veut faire les bons choix, savoir comment agir, comment faire, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut aller dans le miroir de la parole de Dieu. Il faut s'y regarder. Et là, on va voir les choix qui sont à faire. On va voir ce qui ne va pas. Et on va essayer de s'améliorer avec le Seigneur. Dieu nous révèle tout dans son miroir, absolument tout. Connaissez le scanner ou l'IRM? On a tous déjà peut-être passé par quelques-uns, moi plusieurs fois, certains autres aussi. Et quand le neurochirurgien quoi, nous montre les images, c'est précis, hein, c'est net. Hein. On voit ce qui ne va pas, on voit là où ça fait mal, on voit où ça couaque, comme on dit. Mais est-ce que ce scanner ou cet IRM peut vous guérir? Et non, ça peut montrer. Ça vous montre, mais ça n'intervient pas. Il faut qu'il y ait une intervention humaine pour que les choses s'arrangent. Eh bien, ça, ce n'est pas le cas de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vous montre. Le miroir de la parole de Dieu, il vous montre ce qui ne va pas. Et en même temps, la parole de Dieu vous donne la puissance de changer ce qui ne va pas. Le Seigneur vous donne la possibilité de changer les choses qui ne vont pas. Le Seigneur donne la puissance de changer les choses qui ne vont pas. De passer des choses qui sont moches, qui sont laides, à quelque chose de joli, selon le cœur de Dieu. C'est important, ça. La parole de Dieu, elle guérit. Elle relève. Elle transforme. Elle renouvelle. D'ailleurs, on en a des bons exemples aussi ce matin. Nous avons été renouvelés, nous avons été guéris, nous avons été transformés par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a montré comment nous étions et nous change encore chaque jour. Et elle nous changera chaque jour, jusqu'à ce qu'on soit près du Seigneur. Nous avons parlé en début de message du moins connu. Eh bien, lui, Dieu le connaît par cœur, parfaitement bien. On ne trompe pas Dieu, il nous connaît par cœur. Ça, c'est important. Il ne faut pas croire qu'on peut tromper le Seigneur avec nos petites pensées ou hein, qu'on cache à tout le monde. Eh bien, le Seigneur, lui, il le sait. Il le sait. Alors, je pense qu'il est important, mes frères et sœurs, ce matin, c'est de prendre conscience qu'il nous faut apprendre à nous présenter devant le miroir de la parole de Dieu. C'est un apprentissage à faire. Et au-delà d'apprendre, il faut aimer s'approcher de la parole de Dieu. Il ne faut pas y aller avec des pieds de plomb. C'est important, il faut apprendre à aimer se présenter devant la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on aime se présenter devant la parole de Dieu, devant le miroir de la parole de Dieu, ou est-ce qu'on n'y va pas, ou très peu, ou quasiment pas souvent? Est-ce que je prends plaisir même à me présenter devant le miroir de la parole de Dieu, quotidiennement? Est-ce que je le fais? Quelques questions de réflexion que l'on peut garder pour nous et y réfléchir. Le miroir de la parole de Dieu, pour les chrétiens, c'est le miroir le plus important. Et pourtant, c'est celui qu'on fuit le plus souvent. On aime bien se regarder devant le miroir de la salle de bain. Souvent, on se regarde les uns les autres, on se compare, on se critique, on émet des critiques sur les autres. On aime bien faire ça, parce qu'on est fait de ça, faire attention à ça. Mais le miroir le plus important pour le chrétien, c'est le miroir de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est celui qu'on fuit le plus. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la lumière de Dieu. On a peur de ce que Dieu va mettre en lumière lorsqu'on se présente devant sa parole, devant son miroir. Qu'est-ce qu'il va me montrer de moi qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Hein? Quand on est invité chez quelqu'un, au Nouvel An, ou pour un repas quelconque, on est invité. Mais qu'est-ce qu'on a comme premier réflexe? On se prépare. On se prépare devant le miroir. On se fait tout beau, on se maquille, on se coiffe. Les femmes se maquillent, les hommes se coiffent, on met du gel, on regarde si tout va bien, on met ses beaux habits, on se fait beau. On se fait beau. On arrange ce qui ne va pas devant le miroir pour être présenté sous son meilleur jour. C'est important, ça. On le fait tous, c'est important. On peut se rendre compte par là de ce qui ne va pas. On améliore, on s'arrange. Et je pense qu'il en est de même pour notre être spirituel. Nous sommes appelés à sortir en dehors de l'assemblée, nous sommes appelés à sortir en dehors de nos maisons, appelés à côtoyer les gens du monde, nos collègues, nos amis, notre famille. Et avant de sortir, nous présenter comme ça, est-ce qu'il ne serait pas bon de s'observer dans le miroir de la parole de Dieu pour changer les choses qui ne vont pas, pour améliorer les choses qui ne sont pas belles? Parce qu'on n'est pas toujours beau, hein. Faut pas croire. Hein. Quand on se regarde dans la parole de Dieu, devant son miroir, il ne montre pas que des belles choses. Bien sûr, il montre ce qui va, mais il montre aussi surtout ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Nous devons apprendre à nous regarder dedans pour nous préparer, pour être une bénédiction, un encouragement pour les autres du dehors, pour plaire à Dieu encore un peu plus. Nous ne devons pas avoir peur de nous présenter devant le miroir de la parole de Dieu. N'ayons pas peur de la lumière de Dieu. Ceux du dehors, les païens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas l'Éternel, bien sûr qu'on comprend qu'ils aient peur de se présenter devant Dieu, parce qu'ils sont coupables. Mais nous sommes justifiés, Patrick l'a rappelé aussi, Eric l'a rappelé, nous sommes justifiés par Dieu, par son Fils. Le sang de son Fils nous a pardonné, nous a couvert. On est pardonné. Alors n'ayons plus peur de nous approcher de l'Éternel. Même si parfois, le miroir de la parole de Dieu va nous montrer des choses pas belles à voir, même pas belle du tout, et parfois même le chaos. Parce que parfois, Dieu il montre le chaos de nos vies, notre être intérieur et spirituel. Il va le montrer parfois. Mais c'est important de montrer d'abord ce qui ne va pas, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer après. On croit souvent que c'est les autres qui doivent se présenter devant le miroir. D'ailleurs, on le dit. Regarde un peu dans le miroir celui-là. Il devrait se regarder un peu plus souvent. Ça lui ferait peut-être du bien. Ah oui, c'est vrai. Mais nous aussi. On doit se regarder personnellement devant le miroir de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement fait pour les autres, ça. C'est valable pour moi aussi. Pas seulement chez moi. Et pas seulement chez les autres. Surtout ça. Pas seulement chez les autres, mais surtout chez moi. Alors, pour conclure ce matin avec vous, pourquoi allons-nous nous présenter devant le miroir de la salle de bain? Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'on est moche. Parce qu'on n'est pas beau. Parce qu'on est laid. Alors, on doit s'arranger. On doit s'améliorer. Quand on se lève le matin, on l'a dit tout à l'heure, voilà, on ne se reconnaît pas parce qu'il y a des choses à améliorer. Après, on se lave, on s'habille, on se coiffe, on se maquille, on devient plus beau. Au départ, on n'est pas beau, on est moche, on est laid, hein, sauf certains qui ont le privilège d'être beau même au lever du lit. Hein. Voilà. Certains peut-être, mais pas tous. Hein. Voilà pourquoi on doit aussi se rendre devant le miroir de la parole de Dieu. Pour voir ce qui ne va pas chez nous. Pour arranger ce qui ne va pas chez nous. Dans notre vie spirituelle, pour que Dieu puisse nous rendre plus beaux, plus jolis, plus agréables à voir, comme Dieu le désire, c'est son désir. Et on ne doit pas seulement s'y approcher avec les pieds de plomb, je l'ai dit, mais aimer. Ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Francis le dit souvent d'ailleurs, il faut aimer s'approcher de la Bible, il faut la lire et il faut la mettre en pratique, il faut l'étudier, il faut la méditer, c'est important, chaque jour. Laissons le miroir de la parole de Dieu parler à nos cœurs, parce que c'est ce qu'il veut faire, parler à nos cœurs, nous montrer ce qui ne va pas. Et Dieu nous aider avec lui à changer ça, à changer ça. Et pour terminer, une dernière lecture dans l'épître de Jacques, on va la lire ensemble. Jacques au chapitre 1er. Peut-être Jacques qui parle toujours sans détour, par un langage clair et simple. Jacques, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Se mettant à l'œuvre sera heureux dans son activité. Jacques donne un bel exemple ici du miroir. Il nous en parle clairement. Et je terminerai avec ça. Je dois me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Mais pas seulement me regarder. Voilà, je m'y présente. Miroir de la parole de Dieu. Dieu me montre ce qui ne va pas. Après, je ferme le miroir. Je m'en vais, je fais comme si de rien n'était. Le lendemain, je m'y représente. Dieu me montre ce qui ne va pas. C'est pour demain, je changerai quelque chose. Je referme tout et je m'en vais. C'est pas ça que Dieu demande. On se présente devant le miroir de la parole de Dieu. Dieu nous montre par sa parole ce qui ne va pas chez nous, ce qui n'est pas beau, ce qui doit changer. Et je me mets en œuvre tout de suite. Je ne perds pas de temps, je me mets en action avec le Seigneur. Je lui parle, je le prie, je lui demande de m'aider, de changer ce qui ne va pas chez moi, dans mon être spirituel. Il faut se mettre en action. Et ça, c'est la part de l'être humain. Dieu a déjà fait sa part. En Jésus-Christ, Dieu nous aime, il a tout fait pour nous. Nous devons faire notre part de l'être humain. De se mettre en action, de bouger, de faire quelque chose, de ne pas rester comme ça. Dès que le miroir de la parole de Dieu me révèle ce que je suis, dès que je me suis vu, que j'ai vu ce qui n'allait pas, eh bien je me mets en route, afin de changer, d'être plus beau, d'être plus joli, afin de plaire à Dieu. Ça, c'est son désir. C'est son désir. Et la Bible dira dans Jacques, afin de quoi ? Afin d'être heureux, afin de vivre heureux, d'être heureux. Qui n'a pas envie d'être heureux ? C'est la recherche de l'homme sur cette terre. Eh bien, une réponse est ici. Afin de vivre heureux et que les projets de chaque jour soient des bénédictions. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons plus beaux, que nous soyons jolis, que nous soyons des beaux hommes, des belles femmes, mais pas comme le monde veut nous le montrer, mais comme le cœur de Dieu le souhaite. Alors, je terminerai en vous demandant, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on va se présenter plus souvent devant le miroir de la parole de Dieu, est-ce qu'on va se regarder, est-ce qu'on va se mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui pour changer avec Dieu, pour travailler avec lui, pour améliorer les choses. Amen.